Bonjour à tous. Donc le texte pour notre prédication se trouve en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4.
Our text is 2 Corinthians chapter 4.
Pardon, chapitre 6, verset 14.
2 Corinthians chapter 6, rather, and beginning in verse 14.
Jusqu'à 7:1.
All the way to chapter 7, verse 1.
Nous allons donc tout d'abord regarder le contexte de cette épître. Donc cette épître en fait est écrite par Paul aux habitants d'une ville de Grèce qui s'appelait Corinthe.
Look at the context of this letter. It's written by Paul to the inhabitants of a town, a Greek town called Corinth.
Donc, Corinthe, c'est une. Nous avons eu l'occasion d'étudier la première épître aux Corinthiens. C'est une très grande ville qui faisait 400 000 habitants.
As we've already studied, Corinth was a very big city, 400,000 people.
C'était une ville très dynamique sur le plan commercial. Elle était située à un point stratégique sur un isthme.
Very commercially strategic town, situated as it was on an isthmus.
Mais également, c'était une ville qui était réputée pour sa grande immoralité, à tel point qu'il y avait donc beaucoup de prostitution. Et on avait inventé un verbe qui s'appelait corinthiser, qui était synonyme de débauche.
But also a very immoral town, to the point that the verb to corinthianize signified debauchery.
Et pourtant, c'est dans cette ville corrompue et frénétique que l'Esprit Saint a guidé Paul.
And yet it was to this corrupt town that the Holy Spirit guided Paul.
Donc dans l'église de Corinthe elle-même, il y avait beaucoup de problèmes.
And so in the church of Corinth there were a lot of problems.
Des divisions,
divisions,
des problèmes d'immoralité,
immorality problems,
des conflits entre les frères et les frères, oui.
Conflicts between the brothers.
De l'orgueil qui était placé dans la connaissance,
pride based on knowledge,
au détriment de l'amour fraternel,
which destroyed brotherly love,
du désordre dans les cultes,
disorder in the worship services.
Et on dit souvent que les Corinthiens étaient des chrétiens charnels.
We often call the Corinthians carnal, the carnal Christians.
Quant à la deuxième épître, elle révèle des problèmes d'une autre nature.
And when we look at the second epistle, we see different problems, kinds of problems.
Et apparemment, il y avait des faux apôtres que Paul compare à Satan.
And apparently there were false apostles that Paul compares to Satan.
Et ces hommes-là avaient apparemment un certain succès avec les gens de l'église de Corinthe.
And it seems that these men had a certain amount of success among the believers in Corinth.
Et ainsi donc cette assemblée marquée par beaucoup de péchés que Paul dit ceci.
And so it is to this assembly marked by a lot of sin that Paul says these words.
Je vais donc lire pour vous 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'à 7:1.
And so follow in English as he reads 2 Corinthians chapter 6, beginning in verse 14, down to chapter 7, verse 1.
2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc regardons tout d'abord le plan de ce passage.
They look first at the plan of this passage.
D'abord une exhortation, verset 14.
The outline. First, you have an exhortation in verse 14.
Ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger.
So not to put yourself with an unbeliever.
Ensuite, il y a cinq oppositions dans les versets 15 et 16.
And then you have in verses 15 and 16 five conflicts.
Et ces oppositions viennent appuyer et justifier l'exhortation.
And these come to confirm and justify what he's just said.
Ensuite, dans les versets 16, 17, 18, nous avons des promesses de Dieu pour ceux qui se soumettent à cette exhortation.
And so then in 16, 17 and 18, we have promises of God that come to support this.
Enfin, au chapitre 7, verset 1, nous avons l'attitude qui répond aux promesses de Dieu.
And then finally, chapter 7, verse 1, you have the attitude that responds to God.
Donc ce passage commence avec une exhortation.
So we begin with an exhortation.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
So do not put yourself under the same yoke with an unbeliever.
Et en fait, cette exhortation est aussi est en quelque sorte reprise au verset 16 avec une citation d'Ésaïe 52:11. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur.
And you'll find this brought up again in verse 16, where he cites, where he quotes Isaiah, which says, "Get out from among them and from the impurity."
Et donc, qui sont ces infidèles?
So, who are these unbelievers?
Le mot traduit ici infidèle apparaît 23 fois dans la Bible.
So this word, I think it may be translated unbelievers. I don't have an English Bible. It comes up 23 times in our Bibles.
Effectivement, donc en français, les autres façons de traduire, on le trouve par exemple dans 2 Corinthiens 4:4, c'est incrédule.
So we have also, yeah, another way of translating is unbeliever or unfaithful ones.
Donc en fait, il s'agit tout simplement de personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur.
So we're talking about people who don't know Jesus as their savior.
Alors en ce temps-là, on attachait, et encore même récemment, il y a peut-être une centaine d'années, on attachait les bœufs par paire sous un joug.
So even up to 100 years ago, we would put oxen in a yoke as a pair.
Et donc c'était une pièce en bois qui les liait.
So this is, imagine this piece of wood that would bind these two together.
Et cette pièce était attachée à un axe.
And so it would be then attached to a sort of axle.
Et cet axe donc tirait sur la charrue.
And then which would then pull on the cart.
Et ainsi les bœufs en fait étaient en quelque sorte en esclavage et des compagnons d'infortune.
And so in some ways they were slaves and companions in trial.
Ils étaient comme des forçats.
They were like
convicts.
What?
Convicts?
Convicts, yes. Mm-hmm. Thank you.
Donc cette brève exhortation de Paul nous met en garde sur la conséquence d'une union avec un infidèle.
And so this brief exhortation of Paul warns us against the consequences of putting ourselves in yoke with an unbeliever.
Si nous nous unissons étroitement avec des incroyants,
if we join up closely with unbelievers,
nous risquons de devenir esclaves de leur propre esclavage.
We risk becoming slaves of their own enslavement.
Et leur esclavage, c'est l'esclavage du péché.
And their enslavement is the enslavement of sin.
Et nous avons une illustration très frappante de ce principe.
And we have a striking illustration of this principle
dans la vie du roi Salomon.
In the life of King Solomon.
Et nous allons regarder dans 1 roi au chapitre 11.
And I'd like you to see this in 1 Kings chapter 11.
Et je vais lire donc du premier verset jusqu'au verset 9.
And so 1 Kings chapter 11, follow as he reads verses 1 to 9.
Le roi Salomon, donc 1 roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Éthiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Quel gâchis! Peu d'hommes ont autant bénéficié des bénédictions de l'Éternel que Salomon.
What a waste! Few men ever knew the blessings that Solomon knew from the Lord.
Et pourtant, le passage conclut en disant que le Dieu d'Israël lui était apparu deux fois.
And yet, you notice it ends with saying that the Lord God came to him, appeared to him twice.
Et Salomon s'est uni avec ses femmes.
But Solomon joined himself to these women.
Et il s'est trouvé sous le joug de l'idolâtrie.
And he found himself under the yoke of idolatry.
Paul nous donne ensuite la raison profonde de cette exhortation.
So, coming back to our passage, Paul gives us the deep reason underlying this exhortation.
Évidemment, la raison qu'on vient d'exposer, c'est afin d'éviter ce joug.
So we've already mentioned that the reason is to avoid this yoke.
Mais plus profondément encore,
but deeper than that,
la réponse à cette question est donnée sous forme de 5 oppositions.
So we have the answer is given to that in the form of 5 contrasts.
Et je vais lire donc les versets 14, 15, 16.
So follow and read verses 14, 15 and 16.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc il faut comprendre que ce sont des questions purement rhétoriques.
Gotta understand these are just purely rhetorical questions.
Et Paul ne doute pas dans leur réponse.
Paul is not doubting about the answer.
Et dans tous les cas, la réponse est non.
And in every case, the answer is no.
Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Aucun.
So, you know, what rapport between justice and iniquity? None.
Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Between light and darkness?
Rien.
Nothing.
Donc, regardons maintenant ces oppositions.
So, let's look at these contrasts, these things put in opposition to one another.
Justice, iniquité.
Justice and iniquity.
Lumière, ténèbres.
Light, darkness.
Christ, Bélial, qui est un autre nom pour Satan.
Christ and Belial, another name for Satan.
Fidèle, infidèle.
Faithful, unfaithful.
Temple de Dieu et idole.
Temple of God and idols.
Donc d'un côté, nous avons les éléments qui caractérisent celui qui est fidèle, le croyant.
So on one hand, you have the things that characterize the faithful one, a believer.
Et de l'autre, les éléments qui caractérisent l'infidèle, c'est-à-dire l'incroyant.
And then the other, the things that characterize an unfaithful one, an unbeliever.
Sans trahir la parole, on pourrait reformuler ce qui est dit de la façon suivante.
So, without denying the word of God, we could reword it this way.
Le fidèle a reçu la justice de Christ.
The faithful one has received the justice of Christ.
Il marche dans la lumière.
He walks in the light.
Il appartient à Jésus-Christ.
He belongs to Jesus Christ.
Et il est le temple de Dieu.
And he is the temple of God.
Car en lui habite l'Esprit Saint.
Because the Holy Spirit lives within him.
Mais l'infidèle pratique l'iniquité.
But the unfaithful one practices iniquity.
Il marche dans les ténèbres.
He walks in darkness.
Il appartient à Satan.
He belongs to Satan.
Et il rend un culte aux idoles.
And he gives his worship to idols.
Et à cause de ces différences fondamentales entre eux,
and because of these fundamental differences between them,
il ne peut rien avoir de commun entre le fidèle et l'infidèle.
There can be nothing common between the faithful and the unfaithful.
En arrière-plan, en fait, ce que Paul nous explique ici.
So, to find the background that Paul is explaining here,
c'est un principe fondamental qui est exposé dans le Nouveau Testament.
Is a fundamental principle explained within the New Testament.
C'est celui de la nouvelle naissance.
And it's that of the new birth.
Il ne faut pas aller très loin dans notre Bible.
We don't have to go very far in our Bibles.
Pour trouver ce principe exposé en 2 Corinthiens 5, 17.
To find this principle explained in 2 Corinthians 5, 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
If someone is in Christ, he's a new creation.
La Bible nous enseigne ceci. Quand une personne devient chrétienne,
the Bible teaches us that when a person becomes a Christian,
elle subit une mort spirituelle.
He or she goes through a spiritual death.
Elle est ensevelie avec Christ.
He is then buried with Christ.
Dans le baptême en sa mort.
In the baptism of his death.
Mais une nouvelle personne naît.
But a new person is born.
Romains 6, 4 nous dit que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchons en nouveauté de vie.
Romans 6, 4 tells us that just as Christ has been raised from the dead, we too, we walk in newness of life.
Éphésiens 2 nous dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ.
Ephesians 2 tells us that God has made us alive together with Christ.
Et Jésus lui-même en Jean 5, 24,
and Jesus himself in John 5, 24,
nous dit que celui qui croit est passé de la mort à la vie.
Says that he who has believed has passed from death unto life.
Ce n'est pas une naissance physique, c'est une naissance spirituelle.
It's not a physical birth, it's a spiritual birth.
Spirituellement, au moment de la conversion, il y a réellement une mort.
So spiritually, at the moment of conversion, there's a real death.
et il y a réellement une nouvelle naissance.
And a real new life, new birth.
Et ce nouveau-né est très différent.
And this new birth is very different.
2 Corinthiens 5, 17 nous dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont nouvelles.
2 Corinthiens 5, 17 says, old things have passed away, behold, all things have become new.
Et cette nouvelle personne n'a pas du tout les mêmes affinités
and so this new person doesn't have at all the same desires
que celle de l'ancienne personne qu'il était et qui est morte avec Christ.
As that old person that he was and that died with Christ.
Alors que se passe-t-il si on unit un incroyant avec un croyant?
So what happens when we try to unite a believer with a non-believer?
Rappelons-nous que Paul nous met en garde de ne pas nous unir sous un joug étranger.
Okay, remember that Paul's warning us here not to get into this foreign unequal yoke.
Ceci ne peut pas marcher.
Because this cannot work.
Parce que l'un appartient à Christ.
Because one belongs to Christ.
Et l'autre appartient à Belial.
And one belongs to Belial.
Voici ce qui pourrait se passer dans un couple.
This is what could happen within a couple.
Unissant une personne incroyante avec une personne croyante.
Trying to unite a believing person with an unbelieving person.
L'un voudra aller au culte.
One will want to go to the worship service.
Et l'autre voudra faire la grâce matinée.
And one will want to sleep in.
L'un voudra lire sa Bible.
One will want to read his Bible.
Et l'autre voudra regarder la télé.
And one will want to watch TV.
L'un voudra se lever tôt pour prendre du temps dans le culte personnel et la prière.
One will want to get up early to have some time in personal devotions and prayer.
Et l'autre voudra se coucher tard pour aller faire la fête.
And the other one will want to go to bed late to be able to party.
L'un voudra consacrer une partie de du revenu pour soutenir l'Église.
One will want to devote a part of his revenue to support the church.
Et l'autre voudra acheter une plus grosse voiture.
And the other one will want to buy a bigger car.
Ils appartiennent à deux univers différents.
They belong to two universes, different universes.
La cité de l'un est dans les cieux.
The home city of one is in heaven.
Mais l'autre appartient au monde.
And the other one belongs to the world.
Et ne soyez pas surpris quand je dis que la personne incroyante appartient à Satan.
And please don't be surprised when I say the unbelieving person belongs to Satan.
Nous appartenions tous à Satan avant d'être au Seigneur.
We all belong to Satan before we belong to the Lord.
Jésus l'a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable.
Jesus told the Pharisees, your father is the devil.
Et Paul dit qu'en Éphésiens 2, les chrétiens marchaient selon le prince de la puissance de l'air avant d'être convertis.
And Paul says in Ephesians 2 that before being converted, we walked according to the prince of the air.
La personne enseigne donc, la parole enseigne donc que tant que nous ne sommes pas sauvés, nous sommes sous la domination du prince de ce monde.
So the Bible teaches that as long before we're saved, we're under the domination of the world.
Il y a une autre expression que je voudrais regarder avec vous, c'est qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
And I want you also to notice this expression. What is there in common between light and darkness?
Le mot commun qui est utilisé ici est un mot très fort.
This word in common is a very strong word.
Par exemple, on le trouve dans un passage de 2 Pierre où il est traduit devenir participant de la nature divine.
For example, we find it in 2 Peter where it talks about becoming a participant in the divine nature of God.
Nous sommes en communion avec une personne par ce qui nous anime profondément. On est en communion avec une personne par ce qui nous anime tous les deux, parce qu'il est très important pour nous.
La même personne. We're in communion with someone because of the one who energizes us both.
En quoi deux chrétiens sont-ils en communion?
So what makes two Christians to have communion?
En Jésus-Christ.
It's Jesus Christ.
Mais en quoi les incroyants communient-ils?
But how do unbelievers find communion with each other?
Quelles sont les choses qui les animent profondément?
What are the things that motivate and energize them deep within themselves?
Ils peuvent communier dans des choses anodines comme le sport.
Well, they can find communion in things like sports.
Ou des choses très bonnes comme l'amour pour leurs enfants.
Or even very good things like love for their children.
Ils peuvent communier dans des entreprises humaines.
They can even find communion in certain human enterprises that they join
avoir
together in.
Communion intense dans des projets professionnels.
They can find communion, intense communion in certain professional projects that they share.
Dans la musique.
In music.
Dans l'amour du monde.
In the love of the world.
Ils peuvent aussi communier dans des choses mauvaises.
They can also find communion in evil things.
Comme la rébellion.
Like rebellion.
Ou la débauche.
Or debauchery.
Nous avons eu dans notre pays des scènes de rébellion dans les mois passés, inquiétante.
We've had in our own country in the last few months some very worrying evidences of rebellion.
Et des hommes étaient en communion pour jeter des pierres sur les hôpitaux.
And we found men that were in communion together to throw rocks at hospitals.
Mais ils ne peuvent pas communier dans la chose la plus importante qui soit pour un chrétien.
But they can never find communion in the thing that's most important to a Christian.
En Jésus-Christ.
And that's in Jesus Christ.
Nous travaillons, je travaille personnellement avec des personnes que j'apprécie beaucoup.
I personally work with people that I appreciate a lot.
Nous parlons de beaucoup de choses.
And we talk about a lot of things.
Nous nous entendons très bien.
And we get along really well.
Mais si j'essaie d'orienter le sujet vers Jésus,
but if I ever try to orient the subject towards Jesus Christ,
la conversation tourne court immédiatement.
The conversation just drops off immediately.
Alors que faut-il faire?
So what must we do?
Est-ce que nous devons interrompre toutes nos relations avec des personnes incroyantes?
Does it mean that we need to stop all relationships with unbelievers?
Est-ce que nous devons faire comme les chrétiens Amish qui vivent dans des communautés?
Should we do like the Amish and try to live in communities?
Ou comme les moines qui se séparent entièrement du monde?
Or like the monks who would separate themselves completely from the world?
Paul répond non à cette question.
Paul gives us the answer and it's no.
En 1 Corinthiens 5:9. Il dit, je lis pour vous, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde,
but then he clarifies, not just with all the unbelievers of the world,
ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde.
Because you'd have to actually leave this world.
Et Jésus, en Jean 17, dit au Père que nous ne sommes pas du monde, mais il ne le prie pas de nous ôter du monde.
Yeah, and Jesus prays in John 17 that he says that we're not of this world, but he says, I'm not praying that you'll take them out of this world.
Il nous est pas demandé de sortir du monde.
So we're not being asked to leave this world.
Il nous est demandé de vivre dans le monde afin d'apporter un témoignage.
We're being asked to live in this world in order to bring it a testimony.
Comme l'a dit notre Seigneur, nous devons être le sel de la terre.
As our Lord said, we must be the salt of the earth.
La lumière du monde.
We must be the light of the world.
Et Paul, dans l'épître aux Philippiens, nous exhorte à être.
And Paul in Philippians exhorts us.
À briller comme des flambeaux dans le monde.
To shine as lights in the world.
Portant la parole de vie.
Carrying forth the word of God, the word of life.
Comme Jésus, nous devons aimer les incroyants.
So like Jesus, we must love unbelievers.
Jésus a marché dans le monde.
Jesus world.
Il a démontré son amour envers tous les hommes.
And he showed his love to all men.
Sans faire d'exception de personne.
With no exceptions.
Il a dîné chez les publicains.
He would dine with publicans.
Mais aussi chez les pharisiens.
But also with Pharisees.
Il a témoigné envers la femme samaritaine.
He was a testimony towards the Samaritan woman.
Il a pleuré sur Jérusalem qui le rejetait.
And he cried over Jerusalem that rejected him.
Il a même témoigné de la vérité à Pilate.
He even, testified of the truth to Pilate.
Mais c'est une chose que de vivre parmi des personnes.
So it's one thing to live among people,
et même de témoigner envers elles.
And to be a testimony to these people.
Mais c'en est une autre que d'être en association avec elles.
But it's another thing to be in association with them.
Alors que faut-il faire?
So what must we do?
Le message au verset 17 est clair. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous.
The message in verse 17 is clear. Come out from among them and be separate from them.
Nous avons parlé du mariage, c'est à l'évidence la première application de ce passage.
We talked about marriage and that's clearly the first application of this passage.
Mais nous devons aussi être vigilants sur nos amitiés.
But we must also be careful about our friendships.
En particulier vous, jeunes gens et jeunes filles.
I speak especially to young men and young women.
À l'âge de l'adolescence, vous êtes beaucoup plus sensible que les adultes au regard des autres.
During the teenage years, you are a lot more sensitive to the opinions of others around you than even in the adult years.
Vous êtes plus influençable.
And you are the more influenceable.
Cette exhortation de Paul est aussi pour vous.
So this exhortation from Paul is also for you.
Ne liez pas des relations trop étroites avec des jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur.
Don't form too close relationships with people that don't know the Lord.
Recherchez plutôt à cultiver l'amitié d'un copain ou d'une copine.
You should look rather to form closer relationships with a friend
dont vous savez qu'il aime Jésus,
that you know loves Jesus,
et qu'il veut être son disciple,
and that wants to be his disciple.
Soyons vigilants sur nos passe-temps.
We must also be vigilant about our hobbies.
Reconnaissons que la télévision, pour la majeure partie de ses programmes, est impure.
Recognizing that the majority of the programs on television are impure.
Que la musique du monde est impure.
That the music of the world is impure.
Qu'une bonne partie de la littérature est impure.
That a majority of the literature of the world is impure.
Qu'une grande partie des films du cinéma sont impurs.
That a majority of the films are impure.
Ces choses sont criblées de grossièreté.
These things are just chocked full with crudeness.
Immoralité.
Immorality.
Violence.
Violence.
Et cela de plus en plus.
And that's happening more and more.
Enfin, soyons vigilants sur nos associations sur le plan spirituel.
And finally, also we must be vigilant about our associations on the spiritual level.
Nous voulons nous rappeler le contexte dans lequel est écrit cette épître.
We need to remind ourselves of the context in which this letter was written.
L'apostolat de Paul était attaqué par de faux apôtres.
Paul's own apostleship was being attacked by these false apostles.
Des ouvriers trompeurs.
These were false workers of God.
Déguisés en apôtres de Christ.
And they were disguised, he says, as apostles of Christ.
Et manifestement, ces personnes ont eu un certain succès auprès des Corinthiens.
And it's apparent that these false disciples had a certain amount of success among the Corinthians.
Puisque Paul leur a dit, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché.
Because Paul says, if someone comes preaching another Christ than the one which we have preached,
vous le supportez fort bien.
He says, you support him well.
Dans un tel contexte, Paul nous dit de ne pas nous mettre avec des infidèles sous un joug étranger.
And so it's in this context that he tells us not to yoke ourselves up with an unbeliever.
Il nous met en garde contre l'association avec des personnes qui enseignent de fausses doctrines.
And so he's warning us against association with people who teach false doctrine.
Et combien ce danger est grand aujourd'hui.
And this is a very great danger in our day.
Il est à craindre que les chrétiens d'aujourd'hui, dans un monde marqué par la tolérance,
it is to be feared that Christians in our day, which is marked by this emphasis on tolerance,
ne soient enclins à accepter comme chrétiens toute personne qui prétend l'être.